Europe 1. On continue à vous informer sur Europe 1. Alors comme chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Bonjour Patrick Artus.
Bonjour.
Directeur des études à la Banque Natixis, vous êtes souvent singularisé par des positions originales ou à contre-courant. Et là, dans une note publiée cette semaine, vous allez jusqu'à prédire la fin du capitalisme néolibéral. Vous allez nous expliquer, mais d'abord, je voudrais avoir votre regard sur ce choc économique mondial dont on ne connaît encore ni l'ampleur ni la durée. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aborder un terrain complètement inconnu, y compris pour les économistes ?
On sait quand même à peu près comment il faut réagir, et je crois d'ailleurs que les gouvernements européens réagissent assez bien. C'est pas du tout une crise habituelle. Les crises dont on a l'habitude sont des crises où la demande chute. Les entreprises arrêtent d'investir, les ménages arrêtent de consommer, et donc la réaction doit être de soutenir la demande. Donc on fait des déficits publics qui permettent de donner du revenu, de soutenir les entreprises. Cette fois-ci, c'est une crise de production, puisque une partie importante, apparemment 50% en France, des salariés ne peuvent plus aller travailler. Donc la bonne réponse, c'est d'éviter les faillites d'entreprises. Parce que la réflexion qu'on doit avoir, c'est une réflexion sur qu'est-ce qui pourrait faire que cette crise, qui est très violente, mais qui normalement n'est pas très longue, se transforme en une longue période de stagnation économique. Et un des mécanismes de transmission, ça serait évidemment qu'il y ait beaucoup de faillites. Et donc je crois que tous les gouvernements, d'ailleurs même aux États-Unis, l'ont compris, et donc on a des politiques qui essaient de maintenir les entreprises en vie, de leur permettre de traverser cette crise avec des aides publiques, avec des baisses d'impôts, avec des subventions, avec des garanties des crédits faites par les États, etc. Donc certes, nous n'avons pas du tout l'habitude de ce type de crise, mais je crois que nous sommes quand même capables de comprendre ce que sont les politiques économiques qu'il faut mettre en place.
Garantir la pérennité du tissu économique, ça, vous l'avez dit, nous ne laisserons aucune entreprise risquer la faillite, a promis Bruno Le Maire, et puis aussi l'État français qui s'engage en quelque sorte à maintenir le niveau de vie de ses habitants pendant cette crise. La France peut ou doit ainsi dépenser sans compter, quoi qu'il en coûte, avait dit Emmanuel Macron.
Alors c'est une question importante, parce que évidemment, on ne pourrait pas faire ça pendant 2 ans. Mais on travaille tous, alors peut-être à ton tort, hein, mais on travaille tous, c'est des hypothèses que nous donnent d'ailleurs les chercheurs en épidémiologie, avec l'idée que c'est une crise de 3 mois, quoi, hein, comme on l'a vu en Chine. Si c'est une crise de 3 mois, il faut le faire, puisqu'à nouveau, si on laissait les entreprises faire faillite, ou si on laissait, et c'est une différence intéressante entre les États-Unis et l'Europe, si on laissait le taux de chômage exploser, ce qui sera probablement pas le cas en Europe, parce qu'on essaie vraiment de l'éviter, hein, avec des mécanismes de chômage partiel, avec des aides aux entreprises. C'est ce qui va être le cas aux États-Unis, et je crois que c'est une grave erreur de la politique menée par l'administration Trump. Eh bien, cette crise deviendrait durable. Hein. Il y a plein de gens qui seraient au chômage, qui auraient perdu le lien avec leur entreprise. Il y a plein d'entreprises qui auraient disparu avec leur capital, leurs brevets, leurs produits. Donc, je crois à nouveau qu'il faut faire ce qu'ont fait les États. Alors, ça pose une question qui est la faisabilité d'un gigantesque déficit public. Cette année, en France, c'est-à-dire dans la plupart des pays européens, on va avoir un déficit public, j'estime qu'il va être de l'ordre de 7% du produit intérieur brut. Ça aurait dû être 2. Aux États-Unis, ça va être 15. Et donc, comment on fait? Si les États avaient émis cette dette publique supplémentaire sur les marchés financiers, ça aurait été très compliqué. Et les taux d'intérêt auraient certainement beaucoup monté et ça aurait aggravé la crise. Mais c'est là que le rôle des banques centrales est absolument primordial. Donc les banques centrales vont acheter la totalité de cette dette publique nouvelle émise par les États, vont payer en créant de la monnaie, hein, ils vont l'acheter. Et donc il n'y aura ni hausse des taux d'intérêt, ni problème de financement des États. Alors après, vous pouvez dire, on a repoussé la question un peu plus loin, qui est certes, on a réglé le problème de l'énorme déficit public, c'est la Banque centrale qui le finance, il n'y a pas besoin des marchés financiers, mais est-ce que la Banque centrale peut faire ça pour n'importe quel montant? Et la réponse est oui, enfin, il y a des limites, hein, mais la limite c'est quoi pour une Banque centrale? C'est le moment où la confiance dans la monnaie se perd. On en est quand même extraordinairement loin. Le Japon fait ce que fait la BCE aujourd'hui depuis 20 ans. Il n'y a pas de perte dans pas de perte de confiance dans l'yen. Les Japonais gardent leur yen, ils s'en débarrassent pas. Donc on a trouvé finalement une espèce de martingale qui est on ne saurait pas faire un déficit public de 7% du PIB, ou en tout cas ça ferait fortement monter les taux d'intérêt et ça serait très mauvais. Donc faisons acheter la dette publique par la Banque centrale qui va financer les États. Et en fait, il y a tout un débat qui ne sert pas à grand-chose, parce que vous savez qu'il y a une théorie qui s'appelle l'hélicoptère monnaie, hein, où on distribue de la monnaie aux citoyens. On est en hélicoptère monnaie. Quand on paye que l'État paye le chômage partiel, émet de la dette qui est immédiatement achetée par la Banque centrale et qui met de la monnaie à la place, c'est exactement comme si la Banque centrale donnait de la monnaie aux personnes qui sont en chômage partiel. Donc on a démarré cette politique d'hélicoptère monnaie. Et ça permet aux États de faire ces énormes déficits publics. Donc pour l'instant, on a une solution qui tient.
Patrick Artus, vous restez avec nous, on poursuit cet échange. On essaie d'imaginer le monde d'après avec vous après une dernière pause.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec l'économiste Patrick Artus qui a publié une note cette semaine sur le site de la banque Natixis, une note intitulée « La crise du coronavirus sonne-t-elle la fin du capitalisme néolibéral ?» Votre réponse, Patrick Artus, est oui, mais il faut nous expliquer ce que vous entendez par là.
Mon interprétation du capitalisme néolibéral, c'est que la plupart de ce que nous lui reprochons assez collectivement et de façon assez consensuelle, c'est une préoccupation insuffisante pour le long terme. Je crois qu'on peut résumer comme ça. Alors on peut dire que c'est parce que la rentabilité exigée du capital est trop élevée. Quand on veut 12 ou 15% de rendement du capital, on s'intéresse pas beaucoup au long terme, puisque le long terme pèse très peu. Et c'est pour cela probablement que dans beaucoup de pays, on a déformé le partage de revenus au détriment des salariés, qu'aux États-Unis, on voit se reconstituer des monopoles, qu'on s'intéresse pas beaucoup au climat et qu'on rachète les actions pour faire monter les cours boursiers. Donc je pense que la plupart des économistes, d'ailleurs, qu'ils soient de droite, de gauche ou du milieu, pensent que tous ces comportements du capitalisme contemporain sont inefficaces, et du point de vue pas seulement moral, du point de vue économique. Et donc, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que cette crise nous conduise à avoir des horizons longs. Alors ça part bien sûr des systèmes de santé, on n'a pas mis assez d'argent dans l'hôpital, on s'est pas préoccupé de ce que faisait l'industrie du médicament, mais ça va sans doute se généraliser, on va pas s'intéresser qu'au système de santé. On s'aperçoit qu'on ne produit pas nos équipements pour les énergies renouvelables, qu'on émet trop de CO2, qu'on a un problème d'environnement dans l'agriculture, enfin la liste vous la connaissez, elle est longue. Donc il me semble que l'espoir qu'on peut avoir, c'est une préoccupation du long terme, et donc on reviendrait, alors tout le monde le dit, mais je crois que c'est vrai, on reviendrait à une vision plus longue, plus prospective de ce qu'il faut faire dans une économie. Alors la complication quand même est extrême, parce que bien sûr tous les États nous disent on jure qu'on va s'occuper davantage de l'hôpital, des industries stratégiques, qu'on va relocaliser plein d'industries parce qu'elles sont stratégiques, on peut pas les délocaliser dans les pays émergents, qu'on va mettre de l'argent dans la formation, dans l'éducation. Le problème c'est que les États vont sortir de cette crise avec une énorme dette publique, même si les banques centrales, je l'ai dit tout à l'heure, achetaient cette dette, elle est quand même énorme. Et donc est-ce que les États auront les moyens de ces politiques de long terme? Et deuxièmement, les entreprises, elles, sont toujours dans un modèle de capitalisme qui exige une forte rentabilité rapide du capital. Et donc, c'est pas leur mouvement naturel de commencer des projets très longs qui ont des résultats dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, même si on a une volonté collective d'allonger les horizons, et il me semble qu'on l'aura, encore qu'il y a certains historiens nous rappellent qu'après les grandes épidémies du passé, au bout de 6 mois, tout était retour à la normale et qu'il n'y avait aucun changement dans les comportements. Donc, faut être méfiant, mais on peut espérer qu'il y a une vision du long terme qui s'installe. Tout le monde le dit, donc ça, peut-être qu'il y aura un fort mouvement d'opinion pour cela. Il faut quand même comprendre que ça va être compliqué à faire. Les États n'auront pas des montagnes d'argent public à mettre pour ramener des industries, pour aider les entreprises à se relocaliser ou pour moderniser la santé. Et les entreprises devront expliquer à leurs actionnaires qu'elles travaillent différemment, quoi, avec une vision plus longue des projets et moins de préoccupations pour le rendement instantané. Tout ça est souhaitable et compliqué. Donc oui. J'ai mis un point d'interrogation
assez,
à mon
Et
mon
assez
article.
Optimiste Et assez optimiste, Patrick Artus. Il n'y aura pas des laissés pour compte de cette crise, des groupes d'individus ou des pays, j'entends.
Alors évidemment, on est nombriliste aujourd'hui sur la Chine, l'Europe et les États-Unis. Faut pas oublier que cette crise déclenche une crise catastrophique des pays émergents. Ouais. Hein, d'une part, une crise sanitaire, qui va être catastrophique probablement. D'autre part, une crise financière, parce que comme dans toutes les crises, toute l'épargne des pays émergents part s'investir en dollars, hein, et donc quitte le pays, n'est plus investi dans le pays. Et troisièmement, on a eu un effondrement des prix des matières premières, qui est absolument dramatique pour beaucoup de pays émergents. Donc c'est vrai qu'on s'occupe de l'OCDE, mais la crise est pire, bien pire dans les pays émergents, et ça, on le regarde pas. Et puis dans l'OCDE, malgré tous les efforts des gouvernements, je le disais avant, pour limiter les faillites, limiter le chômage, il y aura des faillites et il y aura du chômage, et en particulier des populations moins protégées, hein, les intérimaires, les titulaires de contrats courts, et donc évidemment, il y aura des dégâts. Je dis simplement que quand on parle au gouvernement européen, ils ont une approche qui me paraît extrêmement positive, en disant on va essayer de limiter le plus possible les dégâts, les populations oubliées, et tous les jours ils rajoutent un peu au dispositif en s'apercevant que tel. Donc il y a une vraie bonne volonté, il me semble, dans les gouvernements, y compris le nôtre ici, pour essayer de faire à nouveau ce que je disais avant, qu'il n'y ait pas de mécanisme d'hystérésis, hein, qui transforme cette crise en quelque chose qui soit durable.
Merci. Merci Patrick Artus, je signale votre prochain livre qui paraîtra le 20 mai, si tout va bien.
Voilà.
40 ans d'austérité salariale, commence en sortir chez Odile Jacob. Merci de nous avoir répondu ce matin sur Europe 1. Europe 1.